1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Ich bin keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann.
SLP, salut les PD, amis auditeurs, bonjour, salut Ariane, salut Ghislain.
Salut, bonjour. Philippe.
Comment ça va?
Ça va bien.
Ouais.
Et toi?
Ouais, en pleine forme.
Pourquoi ça vous fait rire?
Non, c'est pour le sujet, tu sais, il y a une petite tension, c'est pas un sujet forcément facile à traiter.
C'est pas un sujet facile à traiter, mais bon, on avait dit qu'on le ferait et on le fait. Donc, la révolution sexuelle a-t-elle eu lieu, c'est le thème du mois, et on s'est dit que bon, voilà, il fallait nécessairement peut-être qu'on s'interroge aussi sur la sexualité féminine. Féminine, ouais.
Ah bah
alors là, quand les gens vont savoir de quoi on parle, tu vois, ils vont faire un rapprochement, et franchement, Ariane, elle te tue à la fin.
Je sais pas si elle me tue à la fin, mais voilà, parce que c'est vrai que cette troisième mission, on s'était dit, on l'a fait autour de la sexualité féminine. Puis finalement, on s'est dit, non, on l'a fait sur la sexualité enfantine.
Infantile, oui, parce que j'ai dit pourquoi on se séparait femmes et hommes dans les premières émissions, donc voilà, on a tout mélangé, c'était très bien.
C'était très bien.
Et pour ne pas tout mélanger tout de même, voilà, puisque on parlait au début du mois donc de cette révolution sexuelle qu'on a putée aux années 70,
ouais.
Et donc c'était un moment aussi où on parlait des besoins élémentaires, la sexualité en faisant partie, et ce besoin n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe avec la puberté, il y a des éléments qui préexistent à cette étape-là et on a des besoins de tendresse, d'affection, de contact, qu'on lie à la sexualité, qui sont intriqués avec la question de la sexualité.
Ouais.
Et donc oui, les enfants ont des besoins qui sont liés à ce que sera leur sexualité adulte ensuite, tout ça quoi.
Alors, c'est assez complexe d'appréhender le sujet. Alors, on va le faire sous différents angles. Premier son, on va parler plutôt par rapport à des mesures récentes concernant... Alors, c'est pas vraiment la sexualité, là, pour le coup...
Mais c'est traité comme tel, et c'est pour ça qu'on veut en parler.
Exactement. Donc, l'hypersexualisation des enfants dans notre
société. Il y a eu un certain matraquage avec ce mot-là pendant quelques semaines.
On écoute.
Quand des petites filles apparaissent dans des publicités maquillées à outrance et dans des poses suggestives, on appelle cela l'hypersexualisation des enfants. Un phénomène encore naissant en France, mais pour la sénatrice Chantal Joanneau, auteure d'un rapport sur le sujet, il est temps d'agir. Les responsables, selon elle, sont d'abord à chercher dans l'industrie de la mode.
C'est un ensemble de choses qui font que, voilà, et sur les matières, et sur les couleurs, et sur le fait que vous avez aujourd'hui des sous-vêtements qui sont des soutiens-gorge ampliformes, sur les talons pour les petites filles, sur les chaussures, il y a des tas de sujets sur lesquels, effectivement, on doit aujourd'hui intervenir.
Pour contrer le phénomène, plusieurs propositions, créer une charte de l'enfant destinée aux acteurs économiques et aux juges, refuser que des enfants de moins de 16 ans puissent être l'égérie des grandes marques, ou encore interdire les concours de beauté en dessous de 18 ans, et en particulier les mini-miss. Une manière de défendre l'intérêt de l'enfant et son développement.
Un enfant qui est considéré comme un objet sexuel développe des pathologies qui peuvent être extrêmement graves au niveau de la construction de son image, de sa construction identitaire, avec des phénomènes d'anorexie, avec des phénomènes de troubles psychologiques importants.
Autre proposition plus radicale, le retour de l'uniforme pour tous à l'école primaire, l'occasion de rétablir l'égalité des sexes dès le plus jeune âge.
Donc on a aussi entendu Roselyne Bachelot, hein, pour ceux qui ont reconnu sa voix. Et oui, non, je suis assez... tout ce discours-là, ça m'a... Enfin voilà, le mélange, non pas des genres, mais sémantique, quoi, au niveau du lexique, c'est assez hallucinant. Mais bon, on a quand même eu pas mal Michel Fiz sur plein de plateaux pour remettre en place qu'il ne faut pas mélanger sexualité et genre, puisque...
Parce que, la question, elle est là, quoi. Je pense qu'effectivement, il y a une confusion, là. Il y a une confusion entre sexualité et genre. Parce que là, en l'occurrence, quand on parle d'hypersexualisation des petites filles, précisément, qu'est-ce que ça a à voir, finalement, avec la sexualité des enfants?
Donc oui, non, c'est sûr que le regard chargé de sexualité, il est dans l'œil de l'adulte.
Ouais, ouais,
c'est ce que et comment les enfants sont accoutrés, déguisés ou habillés quotidiennement, parce qu'il y a ça aussi. Il y a pas que la performance pour les minimis, etc. Il y a aussi de plus en plus des garde-robes très genrées pour de très jeunes enfants.
Oui, de plus en plus jeune.
Oui, voilà, avant on n'avait même pas accès à ce type de... Ou alors très exceptionnellement, c'était la tenue du dimanche, voilà. Mais dans la garde-robe quotidienne pour aller à l'école, on se souciait justement que les enfants ne fassent pas de trous à leurs fringues parce qu'ils courent tous dans la cour et non pas justement que les petites filles soient bien en jupe et... Voilà, donc c'est vrai que ça renvoie aussi, outre le vêtement, aussi aux activités, etc. Parce que être tout de suite avec des petites chaussures qui font mal aux pieds, outre ce que ça veut dire au niveau du développement, aussi de la croissance, mais aussi de ce que ça empêche en termes de mobilité.
Voilà. Ça renvoie aussi à l'image de la femme et à cette sa place dans la société, ouais. Tu vois. C'est-à-dire que là, tu parles de hyper-genrisation, on va dire. Mmh. C'est-à-dire les filles, elles veulent pas être hyper-sexuelles, mais elles veulent être hyper-féminines. Et comment ça se traduit par je mets des gros seins, des talons et des mini-jupes. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire, le plus je veux ressembler à une femme,
bah, de façon,
le plus je ressemble à une pute, en fait.
Bah voilà, mais quelle représentation de la... Pour toi, c'est... Dis donc, insulte pas les putes.
Oui, c'est vrai, excuse-moi. Enfin, en même temps, enfin bon, c'est pas une insulte non plus.
Oui, mais elles sont dans un rapport où l'étalage de ce qui est... stéréotypiquement perçu comme attirant. Enfin, voilà, c'est pas du tout... Enfin, ça a une fonction, quoi. Et c'est, en plus, c'est... Oui, c'est une fonction, c'est quelque chose qui fait partie de l'uniforme du travail, tu vois. C'est agi, quoi. Enfin, je pense aux putes que je chéris, hein, aux personnes qui font ça de leur plein gré, en sachant ce que ça signifie, que c'est un service d'intérêt général. Et ah, c'est vrai, on en parlera un petit peu.
La semaine prochaine.
Mais non, même pas. Vous verrez, je vous ai réservé un petit truc délicieux.
Ah, super.
Je vous avais dit au début du mois que j'allais beaucoup dire bordel.
et alors, quand on entend qu'éventuellement le retour à l'uniforme pourrait être, je ne sais plus, le retour aussi à l'égalité des sexes, moi, ça me fait flipper d'entendre des trucs pareils, quoi. Et en l'occurrence, effectivement, ça résout peut-être en partie le problème de l'hypersexualisation, mais on est encore une fois dans une genrisation qui
extrême.
Est extrême, ouais, tout à fait. Parce que...
Ouais, pour moi, c'est un problème de diagnostic, parce que d'accord, tu as l'industrie textile qui met à disposition toute la panoplie qui a été évoquée, mais il y a les parents qui cèdent. Et d'accord, les enfants peuvent souhaiter et tout, mais ça peut être une fois et les parents le disent, c'est un déguisement. C'est une performance, tu vois, c'est une performance de genre. Nous, on sait ce que ça signifie quand on dit performance de genre. Mais si on permet à l'enfant d'avoir accès à ce vêtement-là, on lui dit, c'est un déguisement. C'est pas ta vêture quotidienne, quoi.
Sauf qu'un déguisement, ça ressemble pas à un vêtement quotidien. Or, ce qui est proposé par les marques textiles, c'est des vêtements de quotidien. C'est pas
moi,
des
je trouve
déguisements.
Pas. Enfin, pour moi, c'est du déguisement. Hein.
Oui, pour toi. Comme c'est des marques qui le vendent, qui font des fringues, c'est pas des déguisements. Tu vois, enfin, je trouve que dans l'esprit de l'enfant, voilà, une robe de fée, c'est un déguisement.
Ventre
nu, c'est pas un déguisement.
À quel point c'est pas imposé à l'enfant aussi, parce que c'est des fantasmes aussi de parents.
Mais comment
parents,
ils ont accès
hein, que,
oui, il y a ça, mais il y a l'accès à l'imagerie et la place de la télévision dans la famille à un moment, voilà. Parce que d'accord, tous les enfants que tu rencontres à l'école, Mais s'il y a une telle pression des marques, c'est parce que les marques, elles entrent à la maison. Si on les rencontrait que à l'école, enfin, c'est bien sûr, c'est très difficile de résister à une pression sociale omniprésente.
Oui.
D'ailleurs, je parlais avec un copain qui est instite et qui disait qu'ils avaient fait plein d'expériences justement sur la pression sociale sur l'individu avec des enfants. Par exemple, ils prenaient un groupe d'enfants et c'était sous forme de jeu en fait. Et ils disaient à l'enfant, ben toi par exemple, voilà, il y avait des bonbons. Et ils disaient à l'enfant, ben voilà, ce bonbon-là, toi, il est très mauvais pour toi. Le jeu, c'est qu'il est très mauvais, il ne faut absolument pas que t'en prennes. Et le jeu pour les autres, c'était ce bonbon-là, il est super bon pour vous. C'est un truc qui va vous faire que du bien et tout ça. Et c'était de voir, en fait, le jeu, c'était de voir comment est-ce que, en fait, la pression sociale de ceux pour qui le bonbon était bon allait agir sur celui... voilà, comment il allait se faire bouffer, quoi, en gros.
Le bonbon.
Bon, le deuxième son, Ariane, c'est toi qui l'as préparé aussi. Tu nous le présentes un petit peu?
Alors oui, parce que donc on était sur ce regard sur les enfants et les concours minimis, etc. Et moi, j'ai été très marquée par un film dont je n'ai pas trouvé d'extrait satisfaisant parce que je l'ai vu en anglais. Mmh. Et,
Little
donc on va,
Miss Sunshine,
voilà,
c'est ça?
Donc on va écouter un extrait musical super important. Mais on va garder les micros ouverts pendant ce temps-là quand même, Tao, okay. D'accord? Donc on entend la musique du numéro de la petite fille qui participe à un concours de minimis mais qui est elle-même pas du tout élevée dans la préparation de ce genre de concours. En fait, elle l'a fait avec sa tante, je crois, une fois. Et c'est parce que celle qui avait vraiment gagné avait été disqualifiée parce qu'elle avait pris des produits d'enfants, un truc comme ça. Que donc la dauphine se retrouve qualifiée pour Little Miss Sunshine. Et toute la famille l'accompagne parce que, enfin bon, c'est épique comme voyage. Et c'est son grand-père, en cachette, qui l'a préparé. Le reste de la famille ne connaît pas le numéro.
Le numéro, le costume, etc.
Voilà. Et à un moment, la famille est super inquiète par rapport au concours parce que justement, toutes les autres, c'est des bêtes de concours, quoi. Le sourire figé, limite, elles ont déjà eu des appareils dentaires. Enfin, tu sais pas, choucroutée, super fine, alors qu'elle, elle est encore
boubou,
tu vois. Un
modèle très, très prégnant, quoi.
Oui, et puis elle est encore très ronde, elle est pas particulièrement coiffée, elle est pas maquillée, elle est pas... Enfin, voilà. Donc, les autres filles sont dans un truc hyper genré, hyper Barbie, tout ça. Mm-hmm. Et cette petite fille, qui est encore une petite fille, qui court, qui saute, machin... Son grand-père l'a préparé à un numéro de striptease. Donc t'as toute la contradiction qui explose comme ça. Et comme je suis désolée, je viens de dire ça, donc de toute façon c'est la chute du film, mais il est génial, hein, voyez-le quand même. Mais le grand-père est mort en fait pendant le trajet, et donc la famille peut pas lui dire, bah écoute, ce que t'as légué ton grand-père quelque part, c'est mal, parce que tous les gens lui disent, non mais elle peut pas se dessaper, la gamine. Bon, elle finit pas à poil, hein. Sur scène et tout, elles disent sortez votre gamine de scène, c'est pas possible. Et en fait, pendant la chanson, toute la famille vient danser avec elle et la soutient dans ce truc. D'accord. Et ils dansent tous comme des comme ils dansent eux, et ils sont complètement ridicules à côté, enfin ils sont complètement décalés à côté des performances qu'il y a eu juste avant.
Et la salle réagit comment?
Bah, il y a les techniciens qui kiffent, qui veulent pas couper la musique et tout. Et puis tous les participants, les concurrents, les membres, certains membres du jury, par tous aussi, c'est très drôle.
Ils sont horrifiés.
Carrément, quoi. Mmh. Donc c'est une scène qui est délicieuse. Mais oui, c'est... Voilà, donc là, on voit la place de la famille, le leg, et puis... Enfin bon. Et la musique est juste énorme, quoi.
Tu l'as vu, Justin?
Non, j'ai pas vu Little Miss Sunshine. Mais ça donne envie.
Ça donne envie. Mmh.
Voilà, et il y a un autre film un petit peu plus récent dont tu nous as parlé, Philippe, qui traite de l'utilisation de l'image des petites filles façon super crue aussi.
On fait une vraie pause musicale, et puis je vous propose d'en parler juste après. Ouais, c'est le film de Eva Ionesco qui s'appelle My Little Princess.
Thank you. à 7h. Vous savez que j'ai horreur qu'on me surprenne, je ne suis pas prêt.
Excusez-moi, ma reine, mais ce que j'ai à vous dire est extrêmement important.
Oh. Allons. Ne pleurez pas, mon enfant. Les larmes abîment et creusent le visage.
Mais c'est horrible, vraiment.
Calmez-vous, asseyez-vous.
Oh, je...
Oh, ne m'expliquez rien, je suis au courant de tout. Donnez-moi un instant que j'arrange ma toilette et séchez vos larmes. Place-nous, toi, va jouer dehors. Décidément, je porte très mal le jaune. Ouais, c'est mieux. Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire.
Mais je l'aime.
Je sais que vous l'aimez. Mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours.
Il me presse et je dois lui rendre réponse demain.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent des fantasmes démoralisants, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger. J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
Ne vous tourmentez plus, il ne vous arrivera rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils.
Vous croyez?
Les fées ont toujours raison. Il faut mettre votre père dans une situation impossible. Vous allez lui dire que pour satisfaire une fantaisie que vous avez, vous aimeriez avoir, je ne sais pas, je dis ce qui me passe par la tête, une robe couleur du
temps. Couleur du
temps? C'est horriblement compliqué, très coûteux. Jamais, jamais, avec tout son pouvoir, il ne pourra vous l'obtenir.
Back to basic, hein, on était obligé de le faire. Delphine Seyrig, Catherine Deneuve, Peau d'âne de Jacques Demy.
Ouais, les conseils de la fée Delila, c'est délicieux, j'adore.
Ariane ?
Bah oui, Peau d'âne, c'est le conte des traditions de par ici sur l'inceste, quoi.
Mm-hmm. Mais en même temps, c'est vachement,
36, hein.
C'est vachement intéressant ce truc parce que ça replace du point de vue de l'enfant. Là, c'est la fille qui vient demander conseil à sa marraine sur je suis amoureux de mon père.
Enfin,
tu vois,
mon père veut m'épouser.
Mon père veut m'épouser, mais moi je l'aime. Ouais. Voilà. Et alors que là, pour l'instant, on avait parlé plutôt de la sexualisation des enfants et pas vraiment de leur désir, tu vois, de leurs choses comme ça.
Alors, dans le film qu'on a évoqué tout à l'heure de Eva Ionesco, en fait, c'est encore une autre approche. Là, c'est la projection des fantasmes d'une mère sur sa fille. On écoute éventuellement peut-être...
C'est la bande-annonce. Que
c'est la bande-annonce. Ouais. Alors, on écoute la bande-annonce et on en parle après.
Avec ta mère, je sais jamais.
Maman,
j'ai toujours dit que je reviendrai. Tu viens? Entre. Ça te plairait de pousser pour moi?
Oui.
On ne touche pas à ça. C'est précieux.
Tu dis rien à mamie, hein. Tu me promets, hein.
Ah non, soyez pas.
Le sourire, c'est con, c'est pour les mariages. Tu fais la séductrice. Tu sais, toi, je sais pas comment tu fais, mais tu sais.
Violetta.
Maman, j'ai faim.
Oh, mais tu mangeras après, maintenant, il faut travailler.
Tu les trouves comment?
C'est bien mieux que t'écoutes. Ta mère est une pionnière. Tu es son œuvre d'art.
Marlène. Ils ont vu mes photos, ils ont dit, madame, vous êtes allée beaucoup trop loin. Toutes les deux, on s'amuse, c'est un jeu.
Moi, je m'amuse pas.
Ils ont décidé que j'allais peut-être plus être ta mère. J'ai tort de vouloir te faire partager ma vie.
Tu te sers de moi pour qu'on te regarde.
Ils sont tous à mes pieds.
Princess, my little princess.
Il y a peu de mamans sur la terre qui aiment leur fille comme je t'aime. Violetta, reviens!
Vous aurez reconnu la voix d'Isabelle Huppert.
Oui, voilà, c'est Isabelle Huppert qui endosse le rôle de la mère, qui endosse parce que c'est pas un rôle facile. Le film, donc c'est un film d'Eva Ionesco, My Little Princess, il est sorti l'année dernière, en 2011, il était à Cannes, alors... Il a une réception pas évidente. Forcément, le film, il est dérangeant. Mm-hmm. Donc, c'est la relation entre une mère qui est plus que borderline, hein, qui va au-delà de ce qu'elle devrait faire.
Mais c'est aussi, c'est très difficile de montrer ça à quelqu'un qui n'a pas l'instinct maternel. Parce que la relation avec l'enfant va être complètement par rapport au rapport à la vie professionnelle du parent, et c'est pas du tout un rapport parent-enfant dans
traditionnel
une...
d'ailleurs.
C'est pas seulement traditionnel, c'est aussi comment il est vanté, parce que être une mauvaise mère, c'est encore un sujet de culpabilisation pour les femmes énorme, quoi. Oui, déjà, ne pas être mère, c'est déjà être une mauvaise mère. Donc,
Là, clairement, ce qui est montré, c'est la relation effectivement entre la mère et la fille, à partir d'une... Donc Eva Ionesco, la réalisatrice, c'est plus ou moins son enfance transposée. Mmh. Hein, donc elle a eu un rapport compliqué, conflictuel avec sa mère, qui était la photographe Irina Ionesco. Et dans ce film, en gros, elle se sert évidemment d'éléments autobiographiques pour construire ce film. Mais elle le fait avec une certaine distance. Très précisément, mais c'est évident que quand on connaît l'histoire, c'est fortement inspiré de ce qu'elle a pu vivre. Simplement, le film a une certaine distance par rapport à son histoire. Il est dérangeant, mais pas forcément ambigu. Certains personnages sont ambigus. La mère, effectivement, on voit très bien qu'elle utilise sa fille à des fins artistiques, carriéristes, commerciales aussi, parce qu'à un moment, effectivement, ça prend réellement. Il y a un certain nombre de personnages autour qui des personnages masculins qui ont une certaine veulerie très très clairement, parce qu'ils s'aperçoivent bien que la fille à un moment effectivement elle est exploitée à des fins sexuelles, érotiques, et le film est intéressant parce que il est vu au travers du regard de l'enfant qui, dans un premier temps, est dans une quête en fait de reconnaissance et d'amour maternel, et puis dans l'engrenage dans lequel elle se retrouve prise, finalement va émerger sa conscience à elle, et finalement une révolte contre sa mère.
Elle va poser ses limites, quoi.
Exactement. En fait, c'est l'enfant qui, elle-même, à un moment, dans cette histoire, va trouver ses limites et les mettre à sa mère, en fait. Hein. Donc, moi, c'est un film que je recommande. Il n'est pas évident à voir, parce que dérangeant, et en même temps, je pense que c'est aussi le reflet d'une époque, parce qu'il y a toute une peinture aussi d'un monde... parisien, branché, des années fin 70, début 80. Et à ce titre-là, il est intéressant aussi.
Bon, on a assez parlé cinéma, parlons littérature.
Et donc,
nous allons laisser d'autres que nous parler de Christiane Rochefort. Et de Arcaos ou le jardin étincelant.
Donc qui en parle ?
Qui en parle ? Oui, c'est une émission radiophonique, je ne vais pas dire concurrente et néanmoins amie, parce que donc, c'est sur d'autres ondes associatives qu'on ne capte pas à Montpellier, qui sévise donc, du côté. C'est sur Radio Canut, donc c'est dans le Lyonnais, n'est-ce pas ?
Radio Canut, mais bien sûr.
Voilà. Et de toute façon, on l'entendra parce que je vous ai laissé leur générique en bonbon. Et voilà, c'est par eux que j'ai. C'est en écoutant cette émission que j'ai accédé à certaines lectures, dont celle.
De Christiane Rochefort.
Voilà.
On écoute.
Il y a une grande importance de ce que Christiane Rochefort va appeler les Bordeaux. Alors, dans les Bordeaux, ça réunit les bordels, B-O-R-D-E-L. Les bordels, B-O-R-D-E-2-L-E, et bordelais. Alors les bordelais, c'est pour les enfants. Alors ces bordelais sont assez spéciaux, ils ont des toutes petites portes pour qu'il n'y ait que les enfants qui puissent accéder à ces espaces. Toutes les personnes qui vont vouloir accéder au conseil, elles vont devoir avoir une gageure, un papier signé de la part de personnes à qui elles ont donné du plaisir. Du coup, tant qu'on a réussi à donner du plaisir à aucune personne, on n'a pas accès au conseil. Sachant que dans l'idée, tout le monde a accès au conseil.
On ne naît pas hétérosexuel. On le devient pas toujours. Le genre, ça se construit, le corps aussi.
On n'est pas des cadeaux,
une émission transpédéguine et féministe.
Sur Radio Canut.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Moi, il y a un truc qui m'a intéressé aussi, c'est comment elle arrive à déstructurer la famille. Alors, j'ai un petit extrait. Érémétous fit une loi que tous les enfants naissants désormais étaient littéralement et non littérairement du roi, à moins qu'un autre père ne prouvât qu'ils étaient siens. De ce jour, les filles perdues, plus ne chancelèrent sous l'opprobre. Au contraire, elles refusèrent de s'encombrer d'un mari brutal et grognon, avec des trous pleins ses chemises, comme ils en ont tous. Les vierges qui voulaient quitter leur famille sans tomber dans une autre, s'arrangeaient pour se faire suborner, et il devint difficile d'en fonder. Les filles posaient des conditions, elles ne voulaient pas être battues et mille caprices. Elles faisaient tout pour vous faire céder avant mariage. Et là, vous abandonnez en ravissant le germe de votre espérance. Et allez donc courir là-bas, le chercher dans le tas, et apporter les fameuses preuves exigées par la loi.
C'était trop délicieux. Il y avait plusieurs extraits lus, mais celui-là, il était quand même très très bon. Donc, Érémétous, c'est un des personnages centraux qui est au début du livre le fils du roi et qui devient lui-même roi et qui donc édicte différentes lois, tantôt antimilitaristes, genre les prés sont aux vaches. Donc, on ne peut pas faire des manœuvres militaires sur les prés. Les prés sont aux vaches. Il y a plein de trucs comme ça, donc le rapport à la propriété, il y a plein plein de choses. Et puis donc, Érémétous naît, donc c'est une fratrie jumelle, des faux jumeaux, un garçon et une fille. Et ils sont inséparables à plus d'un titre. Et, enfin bref, la place de la sexualité chez ces deux enfants qui arrivent aux responsabilités habituellement prêtées aux adultes, puisqu'Érémétous devient roi, ils ont aussi un rapport à la sexualité qui est extrêmement présent dans le livre, à d'autres titres que... Enfin, il n'y a pas que le bordelais comme illustration de la sexualité infantile dans ce livre.
Tu rappelles le titre du livre ?
Arcaos ou le jardin étincelant.
Ghislain ?
Oui.
Une minute pour conclure sur le sujet, on n'en a pas fait le tour évidemment, mais
Moi je trouve qu'on a beaucoup parlé justement de l'adulte par rapport à l'enfant, c'est-à-dire de tout ce qu'il peut projeter sur l'enfant, de tout ce qu'il y projette, et je trouve justement l'ouverture de ce dernier livre paraît intéressante parce qu'elle parle justement de la sexualité des enfants, dont la psychanalyse nous a appris qu'elle existait.
Mais dont elle nous dit relativement peu en même temps.
Oui.
Bah, c'est ce qu'on veut bien entendre, c'est qu'est-ce qui est vulgarisé des savoirs ou des recherches en cours aussi.
Hein.
C'est comme l'existence des mères qui n'ont pas de fibre ou d'instinct maternel. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce que dans les stéréotypes et dans l'imagerie, ça n'a pas sa place.
Fin de l'émission, on se retrouve la semaine prochaine.